Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors pour commenter cette actualité, je suis en compagnie de Léonore Socaras que nous retrouvons, qui nous avait fait quelques infidélités. Léonore, franco-colombienne, enseignante chargée de projet à l'Université fédérale et à la MOFRAMEX. Voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé. Sandrine Floureuse qui nous fait l'amitié de venir en studio aussi malgré un emploi du temps extrêmement chargé, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne. Et Jean-François Mignard, toujours fidèle au poste de la Ligue des droits de l'homme, ancien secrétaire national ou secrétaire national ancien, je ne sais pas comment il faut le présenter.
Les deux sont bons.
Les deux sont bons, c'est parfait. Alors de quoi allons-nous parler ? Eh bien, on va parler de ce qui se passe en Amérique du Sud et en Colombie, parce que nos yeux sont plus tournés vers l'Est que vers l'Ouest, donc il ne faut pas oublier nos amis colombiens, bien que ici nous avons une émission qui leur est entièrement dédiée, à la Colombie, à l'Amérique du Sud en général. Nous parlerons des conséquences de la guerre d'Ukraine, mais surtout des conséquences et de ses dégâts collatéraux au niveau de la planète, du monde entier. Et nous parlerons, évidemment, ça ne vous surprendra pas, de la campagne électorale pour l'élection à la présidence de la République, puisque ben, dimanche, il faudra aller voter. Voilà, c'est Ça va mieux, c'est sur Esprit Occitanie, la radio web, et c'est maintenant. Ah tiens, on commence par une citation, c'est que j'adore commencer par des citations. Alors, je vous la lis, puis vous me direz de qui elle est. C'est facile, c'est mon jeu habituel. Faute de valeurs supérieures qui orientent l'action, on se dirigera dans le sens de l'efficacité immédiate. Rien n'étant vrai ni faux, bon ou mauvais, la règle sera de se montrer le plus efficace. Grand silence en studio, tout le monde se regarde.
Ah, c'est le dernier livre d'un ancien ingénieur d'Airbus.
Voilà, je vous avais parlé de ce livre, mais ce n'est pas extrait. Alors, c'est extrait du livre, mais ce n'est pas de lui.
Philippe Valls, non.
Non plus.
Et... Valls.
Non, il n'y a pas de Valls. Non, c'est quelqu'un de beaucoup plus connu et de beaucoup plus sympathique qui s'appelle Albert Camus.
Ah.
Voilà. Et c'est lui.
Albert Camus.
Oui, Albert Camus. Et c'est un exergue de ce livre dont j'ai eu l'occasion dernièrement de parler avec Florence, avec Sandrine Floureuse, et d'échanger parce que effectivement c'est un livre extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez commencé.
Je l'ai fini.
Ah, vous l'avez fini. Donc oui. Ça s'appelle La Tech. Je l'avais recommandé d'ailleurs aussi. La Tech, ce monstre doux que je recommande à tout le monde. Et on a un peu de mal à le trouver. Mais nous en reparlerons certainement, on fera peut-être même une émission dédiée autour de ce sujet. Voilà, cela étant, eh bien, on va commencer pendant ce temps en Amérique du Sud, en Colombie. Que se passe-t-il, Léonore ?
Alors, il y a énormément de choses qui se passent en Amérique latine, mais je vais vous parler précisément de la Colombie, mais avant, je viens de souligner que l'Amérique latine passe par un moment difficile à cause du Covid, c'est-à-dire qu'il y a un problème sanitaire de la région en entier, parce que les différents pays n'ont pas su répondre aux besoins des populations. On parle d'un manque et d'un problème sanitaire très fort, également un problème social, un problème dans lequel les gens se retrouvent sans boulot. Donc certains pays sont en train de remettre en place un nouveau système pour faire de la coopération entre les pays, mais également problème interne, c'est la corruption qu'on sait toujours. Et qu'est-ce qui se passe actuellement ? Il y a des élections dans différents pays. Disons que le Chili, déjà, il y a eu son candidat, son président. Et c'est un jeune président de 36 ans qui a eu le...
Ce ne sont pas toujours les meilleurs, je dis ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs.
Mais bon, c'est
pas la même biographie que celui auquel pense, je pense.
Non.
Jacques.
Non, c'est-à-dire... Oui, il est leader. D'ailleurs, il était ici. Il est venu en France pour faire une partie de ses études. Il est des droites.
Oui, bon, je viens de le dire.
Donc, voilà. Et ni de gauche, ni de droite, mais bon. Et qu'est-ce qui se passe ? Costa Rica aussi et se trouve vers un nouveau mouvement politique. C'est bien signalé que c'est un des pays de l'Amérique latine qui tient une politique pour la politique, ce qu'on appelle en espagnol « politica verde » ou « politique verte », c'est-à-dire pour l'écosystème. C'est un des pays dans lesquels on trouve un équilibre vers la nature. Et c'est intéressant, les gens parlent très peu de Costa Rica. Je trouve que c'est intéressant un jour d'aborder le sujet de la politique costaricienne parce qu'elle nous permet de comprendre la manière comment ils arrivent à avoir un accord entre les gens qui habitent dans le pays également. Comment on peut garder la nature ? Parce qu'une grande partie du pays est protégée. Alors, pour venir à la Colombie, ce qui est intéressant de voir, c'est l'histoire, pour comprendre les élections actuelles. Pourquoi l'histoire ? Parce qu'on sait que la Colombie s'est trouvée dans des problèmes politiques plus de 60 ans, et à cause des FARC, vous avez toujours entendu. D'ailleurs, les gens pensent qu'il n'y a que les FARC, il n'y a pas que les FARC. On trouve des groupes guerrilleros, plusieurs groupes guerrilleros, dans lesquels aujourd'hui, celui qui est le candidat numéro un s'appelle Petro. Petro, on dit en espagnol. Qu'est-ce qui se passe avec lui ? C'est lui, il faisait partie de M19. C'est le mouvement 19. C'était un ancien guerrilleros et qu'il a réussi à devenir un candidat politique. Mais aujourd'hui, son nom, il a fait de lui une marque, qu'on appelle dans le marketing politique, il a fait de lui une marque, c'est-à-dire un mouvement qui parle d'un changement. En sachant que la Colombie a été un pays entre les libérales et conservadores. Sauf que depuis une vingtaine, 25 ans, il y a des nouveaux mouvements de jeunesse qui commencent à avoir le pouvoir. Sauf que Petro, il a été candidat, il était maire de Bogota. Et donc, en tant que maire, il n'a pas réussi à faire son travail que maire parce que, bien évidemment, la coalition n'a pas permis qu'il gouverne. Donc, il s'est trouvé dans des problèmes incroyables, c'est-à-dire que même problème des transports, la ville, la sécurité. Et là, aujourd'hui, il se trouve en tant que candidat présidentiel. Le pays est divisé. Il faut savoir que la Colombie, c'est un pays des émotions. On parle de football, c'est l'émotion. On parle de la politique et de la religion, c'est de l'émotion. Et donc, même on se retrouve dans des familles divisées à cause de la politique. Vous allez me dire peut-être qu'en France, c'est différent. Ça dépend. Mais sauf que là-bas, on trouve un problème de pour qui on va voter. On a aussi d'un côté des droites à travers disons, l'histoire qu'a laissé Uribe Vélez. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu sur Uribe Vélez. Très impressionnant sa manière de diriger le pays parce qu'il a amené la mano dura, la main ferme, sauf qu'il est resté dans le pouvoir 8 ans. Mais son héritage qu'il a eu, Santos, le président qui était après, d'ailleurs qu'il a gagné le prix Nobel de la paix, parce qu'il a réussi à faire signer un accord de paix avec les FARC. Accord de paix qui a marché ? Non. Quel est le problème aujourd'hui ? Qu'on se trouve, on se trouve face à Petro, c'est la gauche. Petro, c'est le candidat des FARC, parce que les FARC aujourd'hui sont devenus un parti politique. Même s'ils ont signé un accord de paix, les FARC continuent à avoir un impact dans le pays au niveau politique, au niveau aussi et des conflits armés. Parce que même si on dit qu'ils sont laissés les armes, ce n'est pas vrai à 100%, parce qu'il y a une partie de pays qui sont partagés par rapport à ça. Il faut savoir que le mouvement des violences, ce qu'on appelle la rétaliation de la violence, et nous amène à qu'une partie, ils vont déserter, mais l'autre partie, vont former des groupes armés privés. Après, vont des sicarias, des choses comme ça. Donc le pays se retrouve aujourd'hui dans une violence plus que dans les années 2016, quand ils ont signé les accords de paix. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 ? Ils signent les accords de paix, mais l'année qui suivait, l'année 2017-2018, ils commencent à avoir des assassinats des leaders sociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils commençaient à tuer ces personnes qui voulaient un changement dans le pays. Donc on est face à une situation politique, mais également d'une violence qui augmente. Les gens, ils ont peur de voter. Les gens, ils ont une manière de réfléchir pour l'avenir en disant qu'est-ce qu'on va devenir si Petro devient président. Donc, il y a une espèce de peur. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il y a Fico, le président. Il ne se présente pas en tant que droite parce que, justement, il amène une nouvelle politique. il amène un politique des centres, une manière de dire, voilà, moi mais c'est...
C'est pas sur les clivages.
Tout à fait. Sauf qu'il vient de la même région de Álvaro Uribe Vélez, et donc c'est la continuité, donc les gens lui font plus confiance. Donc aujourd'hui, le pays est divisé entre Fico et Petro. Qui va avoir le pouvoir ? Est-ce que les FARC vont réussir enfin d'avoir le pouvoir dans le pays ? C'est ça la question qu'on se pose. Mais surtout l'inquiétude énormément des Colombiens qui disent on est dans une situation dans laquelle on a donné toujours le pouvoir à conservadores, libérales, et maintenant, il y a Petro. Sauf que je pose la question, je vous pose la question à vous, est-ce que vous croyez que quelqu'un qui a réussi à être maire de Bogota, une ville, on parle de plus de 8 millions d'habitants, est-ce que vous croyez qu'il va gouverner un pays dans lequel, quand il a fait l'exercice d'être maire de Bogota, et maintenant, s'il arrive à être président, parce qu'il y a les encuestas, et nous montre qu'il est vraiment et à 43%, 50%, on va dire. Bon, il y a une semaine, c'était à 43%. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va réussir à gouverner ? Est-ce qu'il va réussir à amener le pays dans un nouveau mouvement politique ? Parce que si on regarde l'Amérique latine en général, la balance, elle tourne vers la gauche. Donc, c'est intéressant de voir comment le pays, à travers d'une histoire qui s'est construite depuis 60 ans, elle commence, c'est-à-dire les FARC, en quelque sorte, ils commencent à avoir une main sur le pays, mais différemment. Parce que quand, pour comprendre la politique colombienne, il faut comprendre les guérillas paramilitares et ces mouvements qui sont entre les deux. Parce que c'est la guerre interne dans le pays. Et d'ailleurs, je me reviens aussi dire qu'un des pays qui a le plus de déplacements, c'est la Colombie, un des pays de l'Amérique, d'ailleurs, dans le monde, un des pays qui a des problèmes où les gens doivent se déplacer d'une région à une autre, c'est la Colombie. Parce que les problèmes des zones rouges, parce qu'on appelle ça les zones dans lesquelles il y a la guerre, les gens, ils se rencontrent entre les FARC, entre les M19, avant c'était les M19, sauf que ça s'est transformé dans des nouveaux groupes. Et qu'est-ce qui se passe ? Que les gens, ils ont peur. Ils vont dire, pour qui on va voter aujourd'hui ?
Alors c'est vrai que voir un maire d'une capitale vouloir devenir président de la République, il n'y a pas qu'en Colombie que ça se voit, non ?
Non, c'est pas ça.
On est très nombriliste franco-français.
Voilà. Oui, mais c'est l'effet de l'exercice de dire que quelqu'un était maire, il a eu la possibilité d'être maire et on s'est rendu compte que il y a eu énormément de problèmes.
Il n'a pas su faire de synthèse, c'est ce que vous essayez de dire. Oui, il n'a pas su trouver de consensus. Et s'il n'a pas su le trouver au niveau d'une mairie, est-ce qu'il sera capable d'apaiser le pays sur une échelle beaucoup plus grande, avec des enjeux plus forts ?
Tout à fait.
Sur tout à fait d'actualité.
Arrêtons de faire aussi l'ethnocentrisme, parce qu'on pourrait y
mener. Alors, Jean-François.
Oui, voilà, moi, il y a une question que, sur la brillante introduction.
Très, très brillante.
Très brillante. Le que je me pose, c'est. Alors, c'est d'une part. Alors, bon, moi, les informations que j'ai, c'est que les FARC, électoralement, très peu d'impact. Ils ont fait combien ? 1 ou 2% aux dernières élections, les FARC, qui ont un énorme impact politico-militaire, on va dire, n'ont pas réussi à passer la barre du jeu démocratique, si j'ai bien compris, en Colombie. Alors, mais il y a un absent, là, de ce magnifique exposé, il y a un absent, c'est ce qu'on appelle les peuples premiers, un peu. C'est-à-dire, puisque là, dernièrement, il y a eu un attentat. Il y a eu le meurtre d'un certain nombre de dirigeants à la frontière. Là. Parce qu'il me semble que dans l'Amérique latine aujourd'hui, c'est un acteur qui est un acteur qui n'existait pas jusqu'à présent, mais le Chili. On a la présidente de la commission de refonte de la Constitution qui est une entre guillemets, on dirait une indigène, quelqu'un qui vient du. Est-ce que ça joue et ça existe dans d'autres pays d'Amérique latine. Encore une fois, on avait jusque-là l'opposition classique, la gauche, la droite, les marxistes, ceux qui jouaient le jeu ceux qui jouaient la théologie, alors la théorie de la libération, là, pour le coup, et pas la théologie, voilà. Et on avait, et en gros, le pays était souvent, on avait l'impression que les pays étaient un peu pris en otage dans des espèces d'affrontements entre les deux. Et là, on a l'impression quand même que le jeu se s'ouvre à d'autres catégories de personnes, à d'autres types d'identités, y compris politiques. Est-ce que ça existe aussi?
C'est le cas. En parlant de ça, ce qu'on appelle l'indigénisme...
Je dis, en plus, on a du mal, nous, parce que ce n'est pas dans notre milieu de lecture, celle-là.
Si on compare le Mexique, par exemple, avec la Colombie, le Brésil, le Chili, ce n'est pas pareil. Parce que le Mexique, il a une forte influence... C'est-à-dire, on a l'influence de Mexique, c'est un peuple mélangé, mais la présence des peuples autochtones est les plus visibles que chez nous, ou au Brésil, par exemple.
Oui, voilà.
Donc, pendant des années, et d'ailleurs, le Brésil, il y a un problème de racisme très fort au Brésil, parce qu'on ne donne pas la place, justement, en disant, voilà, tous ce sont des opportunités par égales. Et c'est pareil en Colombie, sauf que c'est quelque chose de plus caché. En Colombie, on ne le voit pas directement. Oui, effectivement, depuis un certain temps, on donne la possibilité que les gens, les groupes de certaines ethnies puissent avoir le pouvoir. Et justement, c'est là où les FARC ont gagné de la place, parce qu'il faut comprendre le territoire colombien, qu'il y a certains endroits qui ont été abandonnés. Et c'est ces endroits qui ont été abandonnés, qui a occupé la place, qui a été l'autorité dans cet endroit. Donc, c'est ça qui nous permet de comprendre une espèce de nouvelle relation qu'il y a entre le pouvoir central et les endroits qui ont été pendant longtemps oubliés. Et donc, les gens, ils se reconnaissent dans ce mouvement en le disant, c'est la terre des indigènes, c'est la terre des autochtones. Et on revient à une nouvelle pensée, donc repenser la terre colombienne, repenser la nouvelle. C'est-à-dire qu'on est une nouvelle génération, effectivement, mais également, on va revenir à nos racines. Et justement, c'est ça où joue la stratégie de Petro.
Sandrine Forest.
Oui, j'avais une question, parce qu'avec notre prisme européen, la gauche et la droite, il y a aussi des questions sous-jacentes économiques. Tout à l'heure, on disait marxistes contre libéraux. Est-ce que c'est le cas dans votre pays? Parce que pour avoir été en Argentine, j'avais eu beaucoup, beaucoup de mal il y a deux ans. À comprendre ce qu'était la gauche, ce qu'était la droite, ce qu'étaient les péronistes, quelles étaient leurs influences. Ça a été un long cheminement intellectuel.
Après, l'Argentine, c'est particulier. En tant qu'histoire de l'Argentine, pour comprendre le pays, il faut rentrer même pour ça, le pays, même aujourd'hui, hein, même si les présidents sont nouveaux, mais c'est toujours la même histoire. C'est une histoire qui a marqué entre le péronisme et cette femme qui a marqué aussi l'histoire, c'est un héritage qu'ils ont reçu en réalité, sauf que la Colombie, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que quand on parle des libérales et conservadores, on parle d'une lutte entre les paysans. Les paysans. Et les gens qui ont resté dans le centre, les conservadores, conservateurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le pays a été divisé pendant des années par couleurs bleues et rouges. Bleu et rouge pendant des années. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous raconter une petite histoire. Et à l'époque, quand quelqu'un s'habillait en rouge ou en bleu, pouvait être tué.
Ah oui, la symbolique était plus que forte.
Très, très forte.
Vous voyez, Sandrine, vous qui avez une... C'est un peu, hein, vous prenez des risques, là.
Non, c'est juste... Non, ça, c'est pas maintenant, mais à l'époque, je vous parle de Jorge Eliécer Gaitán. À l'époque, il y avait vraiment une très forte différence entre les couleurs en disant, voilà, c'est mon territoire. Bien évidemment qu'aujourd'hui, la chose a changé. Bien évidemment qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des nouvelles générations qui commencent à répandre, je le répète encore, on revoit le territoire d'une manière différente. On va s'approprier de territoire, mais en tant que savoir, oui. En tant que notre territoire héritage. Et d'ailleurs, il y a des cultures et des ethnies comme los arhuacos, comme... Et des autres, parce que bon, il faut prendre une carte pour vous montrer, parce que comme ça, c'est un peu difficile de vous expliquer. Sauf que on est en train de revoir nos origines et revoir le pays, justement pour donner ce pouvoir aux indigènes, de dire, vous pouvez aller étudier, vous former et nous représenter. Donc, c'est intéressant parce qu'au Mexique, c'est déjà fait. Dans certains territoires, c'est la loi. Leur droit à eux, la diplomatie indigène, on appelle comme ça, parce qu'ils ont leur propre manière de gouverner et de gérer un territoire.
Qu'est-ce qui explique que ces pays, ce continent est toujours en, chaudron en ébullition. Finalement, rien ne se passe de façon fluide, de façon calme. Tout est passion, mais des passions qui sont quand même poussées très loin. Est-ce que les armes sortent très vite ?
Et oui, ça sort très vite, mais il faut comprendre aussi ce qu'on appelle les écoles de guerre. Dans les années 60, 70, cette influence américaine.
Influence, oui, le terme est gentil.
Oui, je suis gentil parce que je suis gentil. Gringos. Gringos. Mais c'est toute une histoire de le fait que les États-Unis, il y a une main invisible sur nos pays. Je ne sais pas si je le décris bien.
Si, on le comprend, mais ça, est-ce que ça existe toujours avec la même acuité qu'autrefois ?
La Colombie est appelée le jardin américain des États-Unis. Et d'ailleurs, et pour ceux qui en appellent, vous savez que nous avons des problèmes avec le narcotrafico. Un narcotrafic, donc une grande partie de cette politique qui a été mise en place et de ces programmes, c'est les États-Unis qui ont mis en place comme le programme Marshall, sauf que ça change selon les pays, ça change de nom. Et bien évidemment qu'ils sont une voix, même s'ils nous disent non, parce que vous savez, à travers de la communication, vous pouvez dire énormément de choses, mais c'est la réalité qui nous montre la vie quotidienne des gens. Et bien évidemment que les États-Unis sont présents. Plus de ce qu'on imagine. Plus.
Bien. Sandrine, une question, tout va bien. Nous passons au sujet suivant.
Je trouve assez passionnant la description que vous faites parce qu'elle elle bouge nos lignes d'appréciation avec nos yeux d'Européens. Et c'est d'une très grande richesse.
Juste, j'ai posé cette question-là parce que On entend parler de l'Amérique latine, en règle générale, en termes de géopolitique. Et aujourd'hui, on entend parler d'Amérique latine, de ce qui se passe en Amérique latine, par un mouvement très lié à la jeunesse, je pense à Alternativa, par exemple, ou des mouvements qui sont très liés justement à cette question à la fois de l'identité, du rapport à l'écologie, à la nature, etc. etc. Et il me semble que, alors là aussi, ça fait de l'ethnocentrisme, ça éclaire d'une certaine manière des choses qui ont des effets chez nous. C'est par contre complètement neuf. C'était pas du tout quelque chose qu'on connaissait. Encore une fois, on connaissait la partition assez classique. Ouais. Tandis que là, moi, je vois, alors, il y a de tout, y compris la Pachamama, la relation à la terre, mère, etc., etc., y compris mystique et tout. Oui. Bon, bien sûr, mais à côté de ça, il y a une internationale relativement jeune d'ailleurs qui se structure aujourd'hui autour de ces questions-là, les peuples premiers. Et je pense que c'est une lecture qu'on a intérêt à avoir parce que celle-là, elle est un peu prospective. Voilà.
Léonore.
Et en parlant de la jeunesse, et je me reviens vous partager sur le travail de Lucas Rodriguez, un photographe. Et d'ailleurs, s'il m'entend, je le félicite parce que son travail est extraordinaire. Lucas. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un jeune homme qui a fait des études dans l'art et graphique. Aujourd'hui, il va dans certains territoires pour partager avec les paysans, parce qu'il faut comprendre aussi la différence entre le paysan et les gens autochtones. Et la vision, la cosmovision du monde, et la relation qu'il y a entre les universitaires, ceux qui vont faire un travail de recherche, qui vont rester que 3 mois, 1 an, ça dépend, ils vont étudier toute une vie, mais ils ne vivent pas dans le territoire, ils ne connaissent pas le territoire. Et donc, c'est intéressant quand il nous expliquait, parce que je parlais avec lui il y a 2 semaines, de son travail actuel, c'est-à-dire qu'il essaye de reconstruire le pays à travers de l'art. Et donc, on voit ce qu'on appelle l'art comme un moyen de changement pour les territoires qui sont oubliés. La photographie, la vidéo... Et surtout connecter ces discours paysans, indigènes. Et je fais la différence entre les deux parce qu'on a toujours vu le paysan comme la main d'œuvre qui produit.
Le péon.
Et le péon, tout à fait. Oui. Oui, bien sûr. Mais on a oublié aussi l'indigène en disant, OK, les personnes autochtones, ils sont une sagesse également. Et donc, comment eux, ils conçoivent leur territoire ? Et c'est là qu'on va commencer à travailler en ce qu'on appelle le pluridisciplinaire, en disant, OK, on va connecter les gens. La nouvelle génération, et c'est justement c'est des travaux comme ça. Et il a réussi, juste pour parler un peu de lui, et je m'arrête parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, c'est qu'à travers un documentaire, il a réussi à changer une loi et à mener ce documentaire à la Cour interaméricaine, parce qu'il n'avait pas une loi qui protégeait la laguna de Mota. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'il a réussi il a réussi à changer une loi grâce à un documentaire. Parce qu'il n'avait pas de protection sur un contrat qu'une multinationale devait signer un contrat. Pour, bon, je vous laisse deviner ce qu'elle s'est passé après. Et donc, à travers la technologie d'aujourd'hui, on arrive à amener à la cour ibéro-américaine un documentaire pour dire voilà ce qui est en train de se passer. Donc, comme quoi les moyens qu'on utilise changent, bien sûr, et changent aussi notre manière aussi d'aborder les situations.
Sandrine, un mot ?
Oui, cette force.
Ça sera la conclusion de ce sujet.
Non, mais c'est une force culturelle, l'utilisation de ces nouvelles technologies qui entrent dans le champ politique avec une force et une légitimité qu'on leur donne si elle a changé une loi. Je voulais dire, vous évoquiez Pachamama, ça a tellement d'importance que dans mon canton, il y a de jeunes agriculteurs bio qui ont appelé leur exploitation Pachamama. Donc voilà, ce petit clin d'œil comme quoi le continent d'Amérique du Sud nous influence positivement.
Comme quoi la mondialisation est à tous les étages.
Voilà. Elle a du bon de temps en temps.
Et votre canton, où est-ce que c'est
pour... C'est à Gagnac-sur-Garonne.
À Gagnac, oui, d'accord. Bien, je vous propose de passer au deuxième sujet, les conséquences de la guerre en Ukraine, les conséquences et les dégâts collatéraux au niveau du monde. Alors, vous savez que cette guerre de conquête initiée par Poutine n'est pas circonscrite au seul territoire ukrainien et aux régions frontalières de celui-ci. Nous sommes tous concernés où que l'on se trouve sur cette planète. Alors, bien sûr, au premier chef, elle touche quand même les femmes, les hommes, les enfants, les civils ou militaires, vieux et jeunes, qui sont décimés. Pour ne pas dire massacré sans distinction aucune avec les moyens les plus brutaux et les plus ignobles, hein, on le constate tous les jours et tous les jours on descend un peu plus bas dans l'horreur. Mais elle concerne aussi ce monde dans la mesure où les relations commerciales que nous entretenons avec les belligérants nous ont mis dans une totale dépendance de ceux-ci dans les domaines énergétiques, alimentaires et dans ceux inhérents à la fourniture de certains matériaux et matières premières, dont la France voire même l'Europe sont totalement démunies. Regardez par exemple le nickel pur, indispensable aux batteries, dont la Russie est le premier producteur mondial. Alors, le phénomène de mondialisation, à l'évidence, ne peut fonctionner de façon efficiente que si les différents pays ont à leur tête des dirigeants responsables et conscients des enjeux planétaires. Convenons que nous en sommes extrêmement loin. Pour rappel, les exportations russes et ukrainiennes dans le seul domaine de l'alimentation représentent 80% des ventes mondiales d'huile de tournesol, 20% de celles de maïs, 30% de celles de blé. Dès lors, il faut s'attendre d'une part à de sérieuses pénuries dans divers domaines, ainsi qu'à des renchérissements substantiels des prix, et pas seulement des prix de l'énergie. Alors les pays dits émergents, qui ont déjà du mal à se remettre de la pandémie, risquent de payer un prix très élevé de cette situation. Et on peut même dire que des famines ne sont pas à exclure. Hein. Rappelons que certains renchérissements du pétrole, il y a quelques années, ont amené des soulèvements. Parce que la famine était là. On n'arrivait plus à tenir les gens qui n'avaient plus rien à manger. Le printemps arabe, d'ailleurs, a été vraisemblablement une des conséquences de ces renchérissements du pétrole. Et donc cette guerre, je le disais, concerne tous les pays, mais elle concerne aussi la planète tout entière si l'on veut bien considérer les effets délétères qui seront les siens au niveau de l'environnement. Elle risque de freiner sérieusement la lutte déjà timide contre les dérèglements climatiques, voire les derniers rapports du GIEC, hein, c'est pas utile d'y revenir. Mais pour se dégager de la dépendance aux combustibles russes, certains pays réfléchissent déjà à relancer la production de charbon, de pétrole et de gaz. Alors qu'il conviendrait à l'évidence de tirer les leçons de la pandémie de Covid et de cette guerre pour construire le monde d'après, dont on parle depuis quelques années. On ne sait pas trop ce que c'est que le monde d'après, mais enfin, on en rabat un peu les oreilles. Hein. Monde d'après qui ne peut survenir qu'au prix d'un changement radical des modes de fonctionnement de nos sociétés et d'une évolution vers la sobriété dans tous les domaines. Il faut d'urgence donc tout mettre en œuvre pour stopper l'agression criminelle dont sont victimes les Ukrainiens. Fût-ce au prix, il va bien falloir se l'avaler, si vous passez l'expression, fût-ce au prix de certains sacrifices que, d'une manière ou d'une autre, nous serons amenés à consentir tôt ou tard. Nous le devons aux Ukrainiens, nous le devons à nous-mêmes, nous le devons également à ceux des pays les plus faibles qui vont terriblement souffrir. Vous savez que dans les crises, hein, les gros... Jean-François, je vous regarde, mais... il n'y voyait rien dans ce regard de particulier. Les gros maigrissent et les maigres meurent. Alors ne perdons pas de temps, car plus il passe ce temps, plus le prix à payer sera lourd pour le monde entier. Bien sûr, cette question, justement, Jean-François.
Oui, je pense que là, bon, l'essentiel des choses a été dites comme d'habitude par l'excellent intervenant.
Je vous remercie, cher ami.
Je crois qu'il a, on en a parlé, et là, je pense qu'on va en reparler effectivement de ce qui est en train de se passer en Ukraine et avec les zones de choc que ça entraîne sur le reste de la planète. Mais j'allais dire droit dans mes bottes, je resterai sur la même position que lors de la dernière discussion qu'on a eue, à savoir, faut faire. Ce qui est en train de se passer peut être un piège, hein, c'est-à-dire que on est là aussi. Tout à l'heure, on disait, Léonore parlait de l'Amérique du Sud, en disant c'est le pays des émotions. Là, on est dans l'émotion. Aujourd'hui, on est dans on est dans le fait d'être révulsé par rapport à ce qui se passe. Et il ne s'agit pas du tout de le nier comme un certain nombre de personnes, influencées ou non, de manière délibérée ou idiot-utile du poutinisme.
Vous avez des noms ?
Oui, j'ai des noms en tête, mais je pense que l'heure, elle n'est pas trop à citer des noms. L'heure, elle est justement à essayer de se déprendre de cette dimension-là. Il y a aujourd'hui des crimes de guerre qui sont en train de se perpétrer en Ukraine. Et hélas, on peut imaginer d'ailleurs qu'on n'en voit que le début, puisque l'évolution sur le terrain, en gros, hein, c'est un déplacement de la guerre, hein, pour des raisons qui restent mystérieuses. Là aussi, il y aurait beaucoup à réfléchir sur qu'est-ce qui est en train de se passer, résistance inattendue du peuple ukrainien par rapport à la stratégie que pouvait développer Poutine. Auto-intoxiqué au Kremlin.
Et faiblesse de ses propres troupes manifestement...
Oui, mais c'est pour ça que je parle d'auto-intoxication au sens de vraiment à un moment donné je dis ça parce qu'y compris j'ai bien entendu des relations régulières avec des gens là-bas, et donc je me fais l'écho aussi de choses que j'entends venant de gens qui vivent au quotidien ce qui se passe en Russie, là, pour le coup, hein, même si j'ai aussi des choses venant d'Ukraine. Voilà. Mais je pense qu'on a intérêt à prendre, et Dieu sait si c'est difficile, à prendre un peu de champ par rapport à ce qui se passe, et à ne pas se laisser embarquer dans le campisme. Hein, vous savez, le campisme, c'est le fait de « choisis ton camp ». Voilà, hein, « choisis ton camp, camarade, tu es pour ou tu es contre moi ».
Ouais.
Et ça, je crois que c'est clair que c'est une agression qui est une agression inqualifiable, alors en termes de droit international, mais même en termes de principes humains minimum. Mais je ne crois pas que ce soit la guerre de l'Orient contre l'Occident, telle que ça nous est présenté, par exemple. Hein, nous serions l'Occident, et telle que la présente Poutine, d'ailleurs. Hein, moi, je suis un peu attentivement à ce que Vladimir Vladimirovitch nous raconte au peuple russe à la télé. On est dans une espèce de bipartition du monde dans lequel chacun serait les bons, évidemment, son camp serait les bons, et il y aurait à choisir son camp. C'est pas ça qui est en train de se passer. C'est beaucoup plus compliqué, d'abord parce que... et on est sorti de la... Et pour ça, il faut qu'on ait des lunettes. On a sous les yeux quelque chose qui est en train de se passer, qu'on regarde avec les vieilles lunettes qui nous disent le passé, mais qui ne nous disent pas l'avenir, quoi. Et c'est pas, je ne pense pas que ce soit nous, les bons occidentaux démocrates, contre les méchants russes totalitaires.
Hein,
d'abord parce que ce n'est pas les Russes. D'abord parce que ce n'est pas
les Russes. Non.
C'est une mafia
qui a mis un pays en coupe réglée,
bien sûr. Mais par contre, c'est une espèce de loupe ce qui est en train de se passer, qui fait apparaître des choses qui étaient des choses sur lesquelles on s'était un peu endormi, par exemple. Parce que, par exemple, quand on regarde la position à l'échelle, l'idée c'est de parler un peu aussi des effets de la guerre. Ce qu'elle fait apparaître, cette guerre-là, par exemple, c'est une représentation de l'Occident et de son adversaire, l'Occident, qui n'est pas si évidente que ça. Tout le monde n'est pas anti-poutinien et tout le monde n'est pas anti-russe dans le monde. Hein.
Oui.
Les décisions qui sont prises à l'ONU ne sont pas des décisions qui se prennent à l'unanimité moins une voix. Par exemple, une partie de l'Afrique, une bonne partie de l'Afrique aujourd'hui, est assez perplexe par rapport à, à l'injonction campiste.
Elle est perplexe aussi parce qu'elle a été le territoire de la guerre froide. On est allé se battre les rues, durant la guerre froide, on les a instrumentalisés, on a mené le combat chez eux.
Et là, pour le coup, quand c'est « on », c'est nous aussi.
Oui, c'est nous, bien sûr.
Dire, l'Afrique, c'est la Syrie, quoi. Hein.
Bien sûr, oui, tout à fait.
C'est le Moyen-Orient.
Ils ont souffert de cet affrontement qu'ils n'avaient absolument pas demandé. Pour eux, c'est une guerre européenne, ça ne les concerne pas.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de payer une relative lâcheté politique de notre point de vue, qui est ancienne, et qui fait que, bon, voilà, c'est... Et là, on avait déjà évoqué cette question-là, il me semble que la manière de... Au-delà de l'émotion, et alors encore une fois, et où compris d'un certain nombre de principes de base, on sait où est l'envahisseur, on sait où sont les victimes. Enfin, je pense que c'est... À part l'intox, c'est pas ça... Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais si on veut en sortir par autre chose que le conflit et de rajouter de la guerre à la guerre. Et moi, je ne suis pas en train de dire, encore une fois, qu'il faut y aller mou, il ne faut pas filer les armes aux Ukrainiens. C'est clair qu'il faut aider les Ukrainiens à se battre contre les Russes et même à se battre de manière offensive contre les Russes. Je veux dire, ça, voilà, ma position est là-dessus. Pour autant, si on veut sortir, parce qu'à un moment donné ou un autre, il va falloir en sortir. Mais Il faut vivre à la fois le présent et avoir le coup d'après. Il faut le penser de manière un peu complexe, voilà, cette affaire-là.
Léonore.
Merci, Jacques. Alors, pour revenir à une question de crime de guerre, et cette idée de choisir son camp, et il faut pas oublier que pendant longtemps, on a été dans une vision bipolaire. Donc le monde était divisé en deux. Aujourd'hui, je crois que cette guerre, depuis un certain temps, on voit que des nouveaux acteurs ressurgissent. C'est-à-dire que dans le monde, aujourd'hui, les nouveaux acteurs nous permettent de voir le monde différemment. Avant, on avait cette espèce de... Il y a eu de la guerre froide entre deux puissances qui essayent d'avoir le pouvoir. Mais aujourd'hui, cette guerre, elle nous amène à avoir des nouveaux acteurs. La Chine, les États-Unis, les positionnements surtout des États-Unis. Parce que les États-Unis ont été un acteur... Et puissant, c'est toujours se montrer comme le junkie qui gère et qui sait comment les choses doivent se diriger. Sauf que là, la politique a complètement changé. Et ça s'échappe de ses mains, en quelque sorte, aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a la Chine, la Russie, et cette politique nous amène également à voir aussi les pays en développement de la manière comment ils vont répondre aussi. Ils vont aussi devoir choisir leur camp, en disant avec qui on va travailler. Donc je crois qu'il faut penser de cette manière, cette manière de comment les acteurs ils se positionnent aujourd'hui et comment ils vont faire de nouveaux accords entre les pays. Sans oublier que cette guerre nous amène dans une géopolitique un problème de l'alimentation. Aujourd'hui, on le voit dans les prix de certains produits, mais cette guerre aussi, ça nous amène à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire. Chaque pays commence aussi à se positionner dans leur propre camp en disant comment nous, on va travailler avec nos ressources. Donc je crois que c'est aussi une manière de...
L'alimentaire, l'énergie, et puis qui est la troisième révolution industrielle, certainement, c'est la possession et les terres rares. Oui. Aujourd'hui, les métaux rares qui sont un peu partout et qui, sans lesquels nous ne pourrions pas fonctionner. Et la tech ne fonctionnerait pas, cette tech qui est jointe à la communication qui est poussée à l'extrême aujourd'hui.
Tout à fait.
Oui, on va laisser Sandrine. À vous.
Oui, je partage votre point de vue sur notre capacité à élargir les nouveaux acteurs, parce qu'on a dépassé la guerre froide avec les États-Unis, vous avez parlé de la Chine. Alors, c'était très intéressant, dans votre propos, vous n'avez pas cité l'Europe. Et donc, je me dis, quel est le rôle de l'Europe aujourd'hui ? Quelle est sa force de frappe, non pas au sens guerrier où on va... justement évacuer notre lâcheté, mais aujourd'hui je crois que c'est une nouvelle page que nous pouvons écrire, c'est ce que vous disiez Jacques, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui que l'Europe ouvre, et d'ailleurs c'est le cas, vous évoquiez la question alimentaire, aujourd'hui les propositions que fait l'Europe, elles changent ses paradigmes, elles changent ses positions. Longtemps, on s'est dit qu'on n'utiliserait jamais nos réserves de stockage, c'était interdit par l'Europe. Aujourd'hui, ça commence à s'ouvrir, on change nos positions, et je trouve que ça c'est très intéressant. Sur la question alimentaire, Il y a des députés européens qui font des propositions aujourd'hui qui font consensus, ce qui est assez rare. Hein. Oui. On ne peut pas dire que aujourd'hui le Parlement européen, l'ensemble des positions, elles sont plutôt clivantes. Et là, je regardais le responsable qui est plutôt socialiste, social-démocrate. Ça existe encore, les socialistes.
Ah bon?
Si.
Ailleurs qu'en France, en Europe, alors.
Alors oui, il y a d'autres.
Et c'est même un socialiste français qui faisait des propositions très concrètes sur la question de la production alimentaire et notamment des céréales, puisque 8% de la production de céréales mondiales, aujourd'hui, par exemple, est dédiée au bio, au carburant bio. Et il disait, ben, transformons...
Grande stupidité.
Oui, oui. Le bio...
Non, le carburant bio.
Donc, si c'est une stupidité, tant mieux, parce que la proposition de ce député européen qui est en charge des questions agricoles disait, arrêtons, voilà, et basculons cette 8% quand même de la production mondiale de céréales qui servait aujourd'hui à des carburants bio pourrait servir tout simplement à de l'alimentation, parce qu'on est dans une obligation qui va être assez immédiate.
On nous a même dit les jachères, on va revenir dessus, bon, sachant qu'on ne peut pas cultiver toutes les jachères pour des raisons techniques.
Alors, c'est exactement le voilà. Il y a 2-3 propositions extrêmement concrètes sur l'utilisation des jachères qui montrent que l'Europe est capable aujourd'hui d'avoir quelques propositions un peu qui changent le paradigme de ces 20 dernières années. Et je trouve que ça peut être un acteur enfin qui parle d'une seule voix et c'est intéressant à observer.
C'est intéressant. Rappelons quand même qu'au Sri Lanka, ça bouge beaucoup. Au Pérou aussi, ils sont paralysés par de violents mouvements de protestation contre la hausse des prix. Donc ça, alors Michel-Édouard Leclerc, il faut parler de Michel-Édouard, a dit, et c'est pas la hausse actuelle des prix, c'est la cause d'événements passés, c'est-à-dire la désorganisation de chaînes de production à cause du Covid, une demande supérieure à l'offre avec la reprise des économies. Et nous dit-il, à mon sens, les conséquences de la guerre en Ukraine ne commenceront à se faire sentir vraiment qu'à partir de l'été, ce qui est vraisemblable. Jean-François.
Oui, oui, c'est le mieux n'est pas devant nous, pour le dire, pour faire un euphémisme. Voilà. Mais sur la question de l'évolution, de l'impact que ça peut avoir, et la question des nouveaux acteurs, moi j'écoutais Bertrand Badi l'autre jour, qui dit souvent des choses intéressantes, qui dit... Et quand on parlait des pays, par exemple, ce qui est en train de se passer est quelque chose qui fait, y compris, éclater, et c'est d'ailleurs une des raisons de ce qui se passe, cette idée d'État-nation. Je veux dire, quand vous parlez avec des Russes, c'est quelque chose qui est assez, qui est assez lumineux quand ils disent les Ukrainiens, les Russes, ça faut vraiment recomposer ce genre de choses-là. Ce qui résiste aujourd'hui aux Russes, ce n'est pas l'Ukraine comme un État-nation, c'est le peuple ukrainien qui est en train de se fabriquer, y compris d'une certaine manière. Et par exemple, ce qu'on voit apparaître à l'échelle d'un enjeu de la sortie de la guerre, ça va être la manière dont le peuple russe, et c'est là je tiens un discours quasiment poutinien, lui il parle du peuple russe, hein, voilà. Comment le peuple russe va être capable de ne pas se faire attraper au piège que lui tend Poutine. Aujourd'hui, quand vous passez dans les rues de Moscou, je veux dire, les gens les plus à même de saisir ce qui est en train de se passer sont au mieux sidérés, et j'allais dire au pire, pas forcément au pire, mais dans l'incapacité, y compris d'en parler entre eux, à la fois parce que c'est très dangereux d'en parler aujourd'hui, hein, voilà, on est agent de l'étranger, mais parce que même on n'a pas les mots pour parler de ces choses-là tellement ça impacte les gens. Hein, je veux dire, c'est et autrement dit, ça a des effets qui sont des effets. Les acteurs, et ça c'est ce que dit Badi, on est habitué à des guerres avec des acteurs qui sont des États-nations qui s'affrontent. Et je pense que ce que dit Bertrand Badi n'est pas fou. Il dit c'est autre chose qui est en train de se passer aussi aujourd'hui. Il faut penser les guerres. On voit bien que les guerres sont liées à autre chose que le fait d'avoir un passeport. Elles sont liées à de l'appartenance religieuse, elles sont liées à l'appartenance ethnique, à des représentations du monde ou des choses comme ça. Et c'est ça aussi qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les alliances, c'est pour ça que je disais, on aura besoin de beaucoup réfléchir si on veut en sortir, parce que les vieilles solutions ne sont plus pertinentes dans la mesure où il y a un ensemble comme ça systémique qui est en train de bouger.
Alors, il y a une solution peut-être pour en confus. Sortir dont personne ne parle, mais moi j'ai entendu Alexandre Adler qui est un bon connaisseur qui nous dit bon, ne vous inquiétez pas, il se passe des choses au plus haut niveau en Russie.
Ils vont dérouiller Vladimir.
Voilà, on va débarquer Vladimir, on va le débarquer fin juin parce qu'il faut le temps qu'on s'organise.
Ça c'est la bonne vieille tambouille.
Est-ce que c'est vrai? Il y a quand même des gens qui doivent y penser là-bas, il y a quand même des gens qui sont
lesquels? Parce que ce que vous disiez c'était très intéressant, Patrick, sur le peuple russe. Moi, Sandrine, je suis un youtubeur qui a encore un peu une certaine liberté, et en un mois, les questions qu'il pose au peuple russe et les réponses qu'il a ont diamétralement changé. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui ne sont plus utilisés, et les Russes, maintenant, ne répondent plus à rien, parce qu'il y a la prison à côté. Complètement, mais c'est donc après ceux qui rêvent que demain Poutine sera mis hors d'état de nuire, je ne sais pas avec quelle force. Moi, je voulais juste, il y a un autre acteur et l'Europe a pointé. A changé son paradigme, et c'est à mieux si l'Europe devient moins néolibérale avec cette crise, on aura au moins gagné ça. On peut toujours le rêver. On peut toujours rêver, il le faut. Il faut rester optimiste dans ces moments difficiles. Ça va mieux de tout à l'heure.
Et ce sera le mien aussi.
On est condamné à l'optimisme.
Je trouve que tant mieux que cette crise majeure pour l'Europe. Si elle se remet en cause et si elle change son système néolibéral. Et il y a eu un mot de Macron pour une fois, moi, qui m'a semblé un peu intéressant, mais entre ses postures, et si ça arrive, mais entre sa posture et la réalité, c'est aussi...
C'est toujours le problème.
Ça fait 5 ans que c'est son problème chez lui, c'est pour ça qu'on votera pas pour lui. Je sais pas si on a le droit de le dire, tant pis, c'est fait.
On peut tout dire ici.
Allez, on le dit.
Jusqu'au vendredi soir.
Alors, le seul mot intelligent qu'il a eu, j'ai un peu de modestie, c'est sur la capacité d'autonomie et de développement de l'Afrique par rapport notamment à la question de l'indépendance et de l'autonomie alimentaire. Si on pouvait enfin donner de vrais moyens à l'Afrique et leur foutre la paix et arrêter de les exploiter, ça serait pas mal. Donc c'est ce que je disais, mais ça fait partie
foutre
des
la paix aux gens serait bien, même l'Amérique du Sud.
Même l'Amérique du Sud, on est d'accord. Mais pour une fois qu'il a eu un propos qui, moi, me semblait intéressant, encore faut-il
effectivement, il fallait le relever, le souligner. Bon, c'est un sujet sur lequel on reviendra à peu près dans chacune des émissions prochaine.
Hélas.
Donc je vous propose de passer au sujet numéro 3, la campagne électorale qui se poursuit, ennuyeuse, superficielle, agressive, creuse, désolante. Il faut dire que son issue laisse peu de place. Laisse peu de place au doute. Macron, toujours égal à lui-même, s'est longtemps défilé avant de rentrer dans l'arène en la jouant en chef de guerre responsable. Il y rentre peut-être un peu tard, il va voir, entraînant quelques boulets type McKinsey. Pécresse continue sa dégringolade en faisant le grand écart entre guillemets sa droite et sa gauche, si ça a un sens chez eux. Hidalgo est inexistante, Roussel fait une bonne campagne et se maintient droit dans ses bottes, mais il plafonne à 4%. Mélenchon, le populiste, tente tout avec agressivité pour siphonner les voix de ses camarades de gauche qu'il pilonne depuis des mois, tout en tentant de faire oublier ses sympathies poutiniennes, car il y en a eu... quoi qu'il les nie. Jadot voit sa campagne et son crédit s'effriter. Eh bien, la chose faire, nous avons Marine Le Pen qui essaye de nous faire croire qu'elle est un agneau de l'emmener,
fait largement oublier ses aventures poutiniennes.
Elle aussi, et son banquier poutinien. Donc, elle est bien aidée en cela, d'ailleurs, par la créature de Bolloré, Zemmour, qui agite toujours ses fantasmes sans queue ni tête. Mais jusqu'ici, tout indique que Mme Le Pen devrait être le changeur de Macron au deuxième tour. Et puis, face à cela, il y a les Français qui regardent un peu aigris, un peu désolés, un peu partagés, avec des interrogations, des craintes. Le réchauffement climatique de plus en plus préoccupant et dangereux, puis la culture dont les politiques ne parlent pas, faute d'en avoir certainement. Bref, il paraît qu'on n'a que les politiques qu'on mérite. Si c'est vrai, nous avons dû gravement fauter quelque part pour en être là.
On n'est pas bon quand
même. On n'est pas bon, mais tous les politiques ne sont pas mauvais. Et nous, on a les bons, on en a moins une dans notre studio, et on l'a reçue pour ça, parce qu'elle représente ce que l'on considère comme le dessus du panier, Sandrine Flores. Alors, votre avis, vous qui êtes immergée un peu dans ce monde?
Alors, je pourrais partager la quasi-totalité de votre propos introductif, mais quand même pas complètement. Pour autant, depuis 2 ans, Donc pas depuis 2 ans, depuis quelques années, et notamment avec Nicolas Sarkozy et son fameux ministère de l'identité et de l'immigration, je crois qu'on a semé les graines d'un débat qui aujourd'hui est clos grâce au... Vous parliez, Léonore, des nouvelles technologies et avec la télé, les réseaux sociaux, on s'aperçoit que ça fait à peu près 2 ans que sur certaines chaînes de télé, et notamment des chaînes d'infos en continu, le seul débat qui nous a été proposé, le seul débat de fond, si c'en est un, l'immigration et l'insécurité et l'identité.
Alors qu'on est le pays d'Europe où nous avons le moins d'immigrés.
Exactement.
Donc on a inventé exactement. Un sujet complètement hors sol.
On a inventé un sujet hors sol qui est rentré comme une petite musique entêtante, donc par définition dans la tête, je ne sais pas si de tous les Français, parce que les taux d'abstention encore aujourd'hui, en tout cas le nombre de Français qui n'ont pas pris de décision définitive pour leur vote dimanche, on est jeudi, est assez conséquent. Ce que je veux dire, c'est que depuis les petites graines qui ont été malheureusement plantées par Nicolas Sarkozy et avec la prégnance et l'importance, et vous le disiez, des chaînes de télévision, des réseaux sociaux, où le seul sujet, ça a été l'immigration, alors qu'on a des débats de fond majeurs sur l'accentuation des inégalités depuis ce quinquennat et des inégalités avec la crise sanitaire. Je crois qu'elles ont explosé. L'injustice sociale n'a jamais été aussi forte. 890 000 personnes dans ce quinquennat de plus qui sont sous le seuil de pauvreté. ATD Quart-Monde, de la Fondation Emmaüs, qui estime qu'on a 350 000 SDF supplémentaires avec des femmes et des enfants avec des niveaux records. Enfin, moi, on a un spécialiste ici. C'est catastrophique. Les vrais débats sur un nouveau monde, ce fameux monde d'après, qui va associer de la justice sociale, de la justice écologique, on n'y est pas. Alors évidemment, ce sont des thèmes portés par la gauche. Et quand pendant 2 ans, sur toutes les chaînes de télé, on n'entend qu'une seule thématique sur l'immigration, sur l'insécurité culturelle, il arrive un moment où ça ne rentre plus dans les têtes. Et après, il y a la faute des partis politiques de gauche. Et je prends ma part, puisque moi j'appartiens à une formation politique qui depuis 5 ans n'a pas travaillé, n'a pas remis son logiciel en cause. Et donc on paye aujourd'hui nos 2% ou peut-être 3%.
Paye... Vous seriez au Parti Socialiste alors.
Et oui, moi je suis fidèle, je ne suis pas une girouette, donc je suis restée dans cette famille politique.
Ah, fidèle, je suis restée qui... fidèle.
Et oui, on n'est pas si nombreux, mais parce que je pense que cette famille politique, elle a produit des conquêtes sociales extrêmement forte pour notre pays. J'espère être issue très modestement de ce qu'on appelle les philosophes des Lumières et que je crois que les socialistes, je crois que Jaurès et quelques autres ont contribué à faire que certains Français ont peut-être ces 30, 40, 50 dernières années un peu mieux vécu. Donc voilà, je regrette que mon parti et les partis de gauche n'aient pas su trouver les points de convergence parce que nous en payons les pots cassés. Si demain Emmanuel Macron est à nouveau président, il y a encore un troisième et un quatrième tour, ça s'appelle les élections législatives.
Ça va être plus amusant, cette affaire.
Les Français auront l'intelligence de ne pas lui donner de majorité si c'est lui qui est élu, ce que je trouverais extrêmement dramatique pour l'avenir de notre pays.
Léonore.
Vous avez abordé le sujet sur l'immigration. C'est vrai c'est vrai en Europe. On entend souvent l'immigration, les problèmes, l'emploi. Mais c'est toujours les mêmes sujets qu'on remet en cause. Mais c'est intéressant aussi de voir que c'est toujours le même sujet. On dirait que les gens, ils manquent d'informations aussi. Parce qu'on n'est pas amené à réfléchir. On est amené à agir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'on a tellement d'informations, c'est toujours les mêmes informations. Et donc, elles font un matraquage dans notre tête publicitaire, tout le temps la même chose. Et donc, c'est pour détourner l'attention des choses importantes. Et donc aujourd'hui, on se retrouve en se disant, on va voter pour le même candidat qu'on avait avant, ou on se retrouve face à les mêmes familles, les mêmes, et on ne sait pas quoi choisir parce que on est, et surtout, je pense, pour la nouvelle génération, les jeunes, en se disant, oui, on va vivre la même chose qu'il y a 4 ans, 5 ans, on a peur, surtout la peur, il ne faut pas oublier ça, et la peur de dire, on va revivre ça, qu'est-ce qu'il faut faire, et vous cherchez la nouveauté. Et c'est là où on peut avoir des surprises. Parce que, je reviens, on ne nous amène pas à réfléchir. Et c'est vrai que c'est un travail personnel, mais c'est également l'information qu'ils nous donnent tout le temps. Problème d'immigration.
Jean-François, le mot de la fin, puisque le temps passe très vite.
Oui, je vais me démarquer un petit peu, tiens. Oui. C'est ça mais qui c'est fait bien. Un peu le sel dans le truc.
Voilà, vous êtes le sel de cette émission, mon cher ami.
Je vous remercie de ne pas dire le gros sel. Le Wattels sur la campagne en tant que tel. Quoi de plus, ce qui a été dit, c'est-à-dire, bon, à un moment donné, il n'y a plus grand-chose à en dire.
Tiens, voilà. On peut dire, par exemple, tiens, je vous coupe la parole, mais la salle... Lors d'un discours à Pau, a fait monter son notaire personnel sur la scène.
Oui,
Zemmour se fait virer d'un stade de foot. Sarkozy est sifflé chez Pécresse. Pécresse et Macron accusés d'avoir plagié Poutou avec son slogan « Nos vies valent mieux que tous les profits ». Le meilleur sondage de l'IFOP qui est sorti dernièrement, c'est le candidat avec qui les Français aimeraient faire un barbecue au camping. C'est sick, hein, comme l'on dit. Ben, ce serait Jean Lassalle à 25%, Macron à 18% et Le Pen à 15%. On peut dire que rien ne nous sera épargné. La plus épaisse a l'air d'envelopper complètement cette campagne.
Je partage d'une part le fait que la campagne est assez lamentable et qu'on a les politiques qu'on mérite aussi. Je partage beaucoup ce genre de choses-là. Je partage le fait, d'ailleurs je l'évoquerai au moment du Conseil culturel, sur l'impact que peuvent avoir les médias ou des choses comme ça. Mais il y a une question. Alors, je suis un peu sociologue de temps en temps. C'est oui, bien sûr que ça batraque. Bien sûr que ça Bolloré envoie le maximum de ce qu'il peut envoyer. C'est vrai que Zemmour est fabriqué sur mesure par un patron de presse, etc., etc. Il y a quand même une question. Alors ça, c'est plutôt le sociologue qui parle. C'est comment ça se fait que ça marche quand même. Comment ça se fait que ça marche? Parce que même si c'est gros, ça pourrait très bien ne pas marcher aussi. Ce que je veux dire, c'est que ça rentre en résonance aussi.
Bien sûr.
Voilà. Ça, c'est le relais. Voilà. Ça rentre en résonance. Quelques hypothèses. C'est la question de l'insécurité, pour le coup.
Oui, l'insécurité culturelle, peut-être.
Ou l'insécurité publique et l'insécurité civile, ou l'insécurité sociale. Je renvoie Robert Castel là-dessus. Plus qu'à Pierre-André Teguieff. Moi, je suis plus sur ce genre de choses-là. Et aussi, peut-être aussi, on est dans un bout de cycle des organisations politiques, des modalités de fonctionnement de la démocratie. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est une espèce de délitement, de métastase, j'ai envie de dire, politique, de quelque chose Et avec, ce qui est extrêmement inquiétant, le fait qu'on sait ce qu'il est en train de nous filer dans les doigts, mais que pour le moment, l'alternative est extrêmement... On ne voit pas grand-chose.
Un peu comme le délitement de la démocratie américaine aujourd'hui. On va voir avec les élections de mi-terme, on en reparlera en novembre. Ouais. Je pense qu'on aura des surprises. Alors Biden, il ne sera certainement pas proposé pour un Nobel, mais à tout le moins, heureusement qu'on a eu Biden et pas Trump dans cette crise, parce que là, peut-être que...
Après, on a une guerre, ça va bouger pas mal.
Voilà. Bien, le temps passe très vite. Nous arrivons à nos dernières rubriques. Alors, on va commencer par les brèves. Juste, moi, j'ai une pensée pour Novaya Gazeta, qui est un organe de presse russe et qui a préféré se saborder ou tout au moins arrêter de paraître. On sait combien de journalistes, et notamment Natalia Politkovskaya, je le prononçais mal, qui a été tuée. Bon, pensons une pensée pour nos amis Novaya Gazeta, et puis une brève, c'est le rapport du GIEC, parce qu'il faut quand même pas l'oublier, sans surprise, qui nous invite pas vraiment à l'optimisme et qui nous dit « Il nous reste que 3 ans, et je cite, pour atteindre un pic des émissions de gaz à effet de serre pour que le monde reste vivable, vivable entre guillemets, et même si ce pic est atteint, la hausse des températures pourrait tout de même dépasser les 2 degrés ». Donc l'objectif le plus ambitieux de la COP21, maintenir les températures à 1,5 degré, est hors de portée avec les engagements internationaux actuels. Et je rapproche de ce que nous disions tout à l'heure, avec la guerre, ça va certainement, malheureusement, aller dans le très mauvais sens. Jean-François, une brève.
Oui, moi j'associe ce qui se passe avec, y compris la liquidation du Centre des droits de l'homme de l'ONG Mémorial, qui a été confirmée par la Cour d'appel de Moscou le 5 avril. Juste une très brève. L'Allemagne vient de rapatrier pour la 5e fois des enfants de famille de Daesh, 57 enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne a quasiment rapatrié l'ensemble des enfants allemands qui sont prisonniers dans les, dans les camps de réfugiés et les camps au-delà de réfugiés de ce qui, en Syrie. Les Français, nous en avons 200. Le gouvernement bloque et refuse de rapatrier ces enfants-là. Je pense que c'est absolument insupportable en termes de droits de l'homme.
Léonore, une brève.
Alors une brève, comme vous le savez bien, parce que vous le sentez, le climat, comment a changé. Et regardez que cette année, il y a eu, dans une région en France, moins 9 degrés. Et ça nous met à réfléchir aussi la manière comme notre température change, mais également la manière aussi comment certains territoires doivent s'adapter. Et je pense aux paysans qui, à cause de ce climat, ils vont être affectés à ces situations. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les propositions qu'ils vont faire pour ces gens-là ou qui vont perdre une certaine partie de leur...
Si on compte sur le FNSEA et son sous-président, notre ministre de l'Agriculture, ça ne va pas les aider beaucoup.
Non.
Ce n'est pas de là que viendra la solution. Sandrine Fourosse.
Moi, ma brève, c'est le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui est un rapport plutôt positif dans ce monde où le pessimisme est de rigueur et qui dit que notre système de retraite, et c'est pour faire le lien avec ce que je disais précédemment de mon appartenance politique, a encore une capacité à être soutenu à moyen et long terme et continue à fonctionner. Et donc voilà, c'était pour relier avec mon intervention précédente. Donc c'est une brève positive.
Voilà, c'est bien. On va passer justement aux brèves positives dans la séquence des « ça va mieux ». Alors moi, ça va mieux, je pense qu'on a un peu le même, Sandrine, c'est la prise de conscience des Européens, hein, que ce monde actuel, ce n'est pas celui des bisounours, que commercer de tout avec n'importe qui n'est ni un gage de paix ni de respect, que la démocratie est fragile, méprisée et contestée par beaucoup, et que par conséquent, on se doit de la défendre âprement, et que face à un monde totalement déréglé, en proie à la violence et au déni des libertés, il faut se mobiliser, constituer un bloc européen solide et uni. Et l'avenir du monde, ou plutôt de nos civilisations, ne sera assuré que par la solidarité, l'esprit de responsabilité, je dirais presque de fraternité, mais là on m'accuserait de plein de choses, et surtout le bannissement de l'individualisme jouisseur et égoïste, pourvu que cette prise de conscience, ce frémissement, se concrétise. Sandrine ?
Et oui, vous avez deviné, c'était le
je
même.
Je lis dans, vos, dans votre
oui,
tête.
Oui, c'était le même. Ça va mieux. Ce sont les prises de position de l'Europe qui aujourd'hui réalisent que le tout libéral, le néolibéralisme et tout ce qui va avec a des limites et qu'il faut fonctionner différemment. Et vous l'avez très bien dit, Jacques, sur l'esprit de fraternité, etc., de solidarité. Mais il faut le redire.
Moi, c'est beaucoup plus mesquin, mais je vais quand même lâcher. J'ai mauvais esprit. Alain Soral a pris 3 mois de prison ferme pour des propos homophobes en Suisse.
Oui.
Écoutez, rien que de le dire, ça va mieux.
Eh bien, écoutez, oui, ça nous met la banane à tout le monde a le sourire. Vous voyez, c'est bien. Allez, on en finit par le Conseil culturel. Alors, moi, j'en ai plein. Des dates. Hein. Le vendredi 15 et le samedi 16 avril, un concert de Pahamat et Bernardo Sandoval que j'ai eu le plaisir de recevoir ici. C'était une fabuleuse émission. Ils vont se produire à l'Écluse, 5 Allées de Brienne, qui est une nouvelle salle qui s'ouvre. Et j'ai reçu
d'ailleurs
un de ses dirigeants la semaine dernière dans l'émission Ma Préférence. Donc, une salle à découvrir et à suivre. Et puis également, samedi 9 avril, donc samedi prochain, oui, à l'église des Minimes, vous pourrez entendre un concert autour de la messe en sol de Schubert. Et on débutera en première partie avec la petite musique de nuit de Mozart. Alors, il y aura des musiciens du Capitole, des étudiants, des professeurs, des chanteurs en début de carrière, des chœurs gersois. Donc un bon moment, samedi, église des Minimes. Ne le manquez pas. Et puis, que pourrions-nous dire d'autre aussi? Si, l'espace des diversités qui accueille chaleureusement pour une première édition, il accueille femmes migrantes et femmes inspirantes. Donc c'est au 38 rue d'Aubuisson, près de la sortie métro Jean Jaurès ou François Verdier, je pense qu'on peut arriver par voilà. Donc vous pouvez, c'est une journée d'activité prévue le 9 avril, les entrées sont libres, alors dans les limites des places disponibles, eh bien il y aura des pauses café, thé, des donations libres. Donc allez-y et vous retrouverez nos amis qui sévissent sur cette antenne de l'équipe Chili Culture et Solidarité. Un conseil culturel, Sandrine ?
Un conseil culturel, à partir du 6 avril, et donc dans les jours qui viennent, vous pouvez aller voir des photographes, des photographies d'artistes ukrainiens au conseil départemental de la Haute-Garonne et actuellement au pavillon République. Et puis quelque chose de beaucoup plus léger, mais je le dis parce que en zone rurale, souvent on a du mal à faire venir un certain nombre de spectacles. Et dans un petit village au nord du département, ils ont réussi à faire toute une semaine sur les champs basques. Et le 29 avril, dans une toute petite église, il y aura le groupe Indara, qui est un groupe assez drôle, assez léger, mais qui a des chants basques avec beaucoup de sens sur la fraternité. Donc voilà, c'était mon petit conseil culturel pour leur donner un petit coup de chapeau, parce qu'ils ont réussi à faire venir les Indara.
Jean-François ?
On parlait de l'impact de la presse et tout ça. À Utopia, vous aurez lundi, le 12, il y a déjà eu une séance ce lundi, et le 12 avril, c'est-à-dire lundi prochain, un excellent film qui s'appelle Media Crash sur l'Empire Bolloré, avec comme invité un intervenant qui est un intervenant du collectif Stop Bolloré, dont je me prévaut de faire partie, qui déconstruit de manière parfaitement pertinente aujourd'hui l'intoxication générale qui a lieu dans les médias à l'échelle nationale.
Voilà. Et le mot de la fin pour Léonore.
Est-ce que vous connaissez le nopal ?
Le nopal ?
Nopal, le nopal, c'est un cactus. Et on a organisé une conférence sur les usages, pardon, sur une table ronde, usages, propriétés et applications du nopal dans l'industrie éco-responsable. Et donc le nopal, c'est un cactus. Et on a invité deux entrepreneurs mexicains qui vont nous parler comment ils sont transformés à travers, comment ils sont créés de cuir végétal à travers du nopal.
Superbe, et bien un moment piquant vraisemblablement, nous irons.
Voilà, c'est scientifique. Hein.
Nous sommes au bout de cette émission. Merci mesdames, merci Jean-François.
Merci Jacques.
C'était Ça va mieux, une émission de Jacques Lavergne avec à la réalisation Tiffaine Lemaitre, que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que tous les autres, bien sûr, sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. Belle journée à toutes et à tous. Et puis dimanche, allez voter.